Cette émission vous est proposée par la Banque Ouest-Africaine de Développement, BOAD, la banque de référence pour un impact durable sur l'intégration et la transformation de l'Afrique de l'Ouest.
Écho d'ici, écho d'ailleurs. Bruno Faure, Guillaume Munier.
Bonjour, Guten Tag. Eh bien oui, cette semaine, nous allons parler allemand, en partie dans Écho d'ici, Écho d'ailleurs, de l'économie allemande que l'on présente souvent comme la locomotive de la zone euro pour son industrie, ses exportations, son marché du travail. Mais cette locomotive est aujourd'hui en panne.
Deutschland, einst als Wirtschaftsmotor Europas und Garant für Qualität bekannt.
Deutschland steckt fest in der Rezession. Das Land, das lange für
Ein Vorstand, der Angst sieht, der wird keine Innovation ernten.
Le retour des manifestations sociales en Allemagne, la première économie de la zone euro en récession, qui l'eût cru? Les chefs d'entreprise, très inquiets, ont décidé de lancer un SOS, de manifester devant la très symbolique porte de Brandebourg à Berlin.
Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Si les entrepreneurs descendent dans la rue, c'est que la situation est plus grave que jamais. Les emplois et la prospérité de notre pays sont en danger. L'Allemagne a un énorme problème de compétitivité. Depuis des années, nos avertissements ont été ignorés par les politiques.
L'inquiétude et la colère d'un dirigeant patronal allemand alors que le pays s'apprête à voter le 23 février pour des élections législatives indécises, a priori favorisent les conservateurs de la CDU avec un programme très libéral et qui ont décidé de faire alliance avec l'extrême droite, l'AfD, pour un vote sur l'immigration. Le débat fait rage au Parlement, le Bundestag où le chancelier sortant, le social-démocrate Olaf Scholz, est intervenu.
Depuis la fondation de la République fédérale, il y a plus de 75 ans, tous les démocrates ont toujours décidé de ne pas traiter avec l'extrême droite. Ceux qui combattent notre démocratie, méprisent notre Europe unie, empoisonnent le climat de notre pays depuis des années, c'est une faute impardonnable. Vous tous connaissez la responsabilité de l'Allemagne. Vous savez combien notre économie profite, comme aucune autre, au marché unique européen.
L'Allemagne, locomotive traditionnelle de l'économie européenne, est-ce encore le cas? On va en parler en détail dans quelques instants avec une spécialiste, Céline Antonin, économiste à l'OFCE. Ce n'est pas tout. Dans la seconde partie de l'émission, nous parlons développement, aide au développement, finance du développement. À quelques semaines d'un sommet international au Cap, en Afrique du Sud, en présence de grandes banques et de grandes agences spécialisées comme l'AFD, l'Agence française de développement, nous recevons l'un de ses dirigeants, le Sénégalais Papa Amadou Sarr.
Aujourd'hui, on doit interconnecter l'Afrique. C'est des ressources importantes. On parle de centaines de milliards de dollars par an pour pouvoir atteindre ses objectifs de financement de ses infrastructures.
Papa Amadou Sarr, qui défend son action au sein de l'AFD, entretient en vidéo sur la chaîne YouTube de RFI et de larges extraits dans quelques minutes dans cet Écho d'ici, Écho d'ailleurs.
Écho d'ici, Écho d'ailleurs
sur RFI.
Où en est l'économie allemande? On va donc entrer à présent dans l'analyse avec vous. Céline Antonin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes économiste senior à l'OFCE, l'Observatoire français des conjonctures économiques, spécialiste de la zone euro. Les prévisions de croissance pour l'Allemagne sont donc très faibles après deux années de récession. Est-ce que vous diriez que l'écart se creuse avec les autres grands pays industrialisés?
Oui, tout à fait. Je pense qu'on peut clairement dire que l'Allemagne aujourd'hui est à la traîne par rapport aux grands pays, notamment de la zone euro. Si on regarde l'évolution de la croissance depuis la crise de la Covid, on se rend compte que, en fait, l'Allemagne aujourd'hui a un niveau de production qui est à peine supérieur au niveau de fin 2019, alors que dans d'autres grands pays développés, alors États-Unis en tête, mais même d'autres pays de la zone euro, le niveau a progressé par rapport au niveau pré-Covid. Donc clairement, l'Allemagne l'Allemagne stagne depuis maintenant 5 ans. Et c'est vrai qu'on a du mal à voir comment elle va arriver à voir le bout du tunnel.
On voit donc, Céline Antonin, une accumulation de facteurs négatifs pour cette Allemagne par rapport à d'autres pays. Vous diriez que la situation est vraiment plus grave que dans les autres grandes économies de la zone euro, si on compare par exemple à la France, dont on dit aujourd'hui que la situation budgétaire, économique et globale est également très mauvaise.
Alors je dirais que la situation est sans doute différente de celle de la France, c'est-à-dire que ce ne sont pas les mêmes vulnérabilités, les mêmes fragilités. En France, on a effectivement un problème de dette publique, de finances publiques, que l'Allemagne n'a pas, puisque l'Allemagne, en revanche, a été vertueuse dans la gestion de ses finances publiques. Elle a aujourd'hui un niveau d'endettement public qui est entre 60 et 70% du PIB. Donc, on est à 40 points de moins que la France. Par ailleurs, elle est attachée à respecter, on va dire, les engagements budgétaires et les règles budgétaires. Donc, elle est plutôt vertueuse à ce niveau-là. En revanche, ça s'est traduit par un déficit d'investissement public par rapport à la France. Donc, avec des infrastructures vieillissantes, notamment, et qu'il faudrait, dans lesquelles il faudrait, en fait, investir. Et ça devient assez urgent. Je pense par exemple à la 5G, je pense au réseau ferroviaire. Donc ça, c'est une première différence. Ensuite, par exemple la vulnérabilité énergétique, c'est vrai que la France repose sur un mix énergétique différent avec du nucléaire notamment. Donc elle n'a pas eu le même impact de la crise du gaz russe que l'Allemagne. Tout ça fait qu'il y a effectivement une différence entre les pays parce qu'elles n'ont pas été touchées de la même façon par les chocs et la structure de leur tissu productif aussi n'est pas la même, c'est-à-dire que l'Allemagne a été aussi plus touchée parce que quelque part, comme elle a une industrie en fait qui représente un poids beaucoup plus important dans son PIB, ça l'a aussi plus fragilisée, plus atteinte. Donc voilà, et c'est un peu pareil avec par exemple la crise de l'automobile, puisque c'est une autre composante de la crise allemande. L'automobile est effectivement en crise avec une baisse importante du nombre d'emplois, etc. Mais en fait, elle avait plutôt très bien résisté jusque-là, l'Allemagne, par rapport aux autres pays. Donc quelque part, elle est en train de prendre une crise que d'autres ont vécue avant elle. Donc voilà.
Alors il y a des particularités pour cette économie allemande. On peut en noter deux principales. Il y a d'abord une forte dépendance à l'économie chinoise et puis une très forte vulnérabilité énergétique.
Pour rappeler justement les composantes de cette dépendance à la Chine, on a par exemple plus de 5000 entreprises allemandes qui sont localisées en Chine contre 1600 françaises. Donc on voit qu'il y a effectivement un gros différentiel. On a aussi une politique en fait allemande qui consistait à favoriser les transferts de technologies, les joint ventures avec des entreprises chinoises en Chine. Et en fait, les Allemands se sont fait un petit peu copier leur technologie, on peut dire, dans certains secteurs. Et donc, la Chine, une fois qu'elle elle s'est appropriée la technologie allemande, disons, s'est mise à produire et elle a, par exemple, dans l'automobile, la Chine a dépassé l'Allemagne à partir de 2023. Par ailleurs, l'Allemagne est aussi dépendante d'un certain nombre de produits chinois, par exemple, les composants électroniques, donc tout ce qui est diodes ou circuits intégrés. Donc, on voit qu'il y a vraiment cette vulnérabilité. En ce qui concerne, cette fois, la composante énergétique, donc on a cette dépendance de l'Allemagne à la Russie, parce que elle a construit en fait son mix énergétique sur l'idée qu'il fallait sortir du nucléaire, et donc pour sortir du nucléaire, il fallait aller vers une économie bas carbone, et le meilleur moyen finalement d'assurer la transition, parce que les énergies renouvelables ne font pas tout et sont intermittentes, c'était aussi de se doter du gaz, enfin d'une grande quantité de gaz naturel. Or, avec la guerre en Ukraine, il a fallu que du jour au lendemain, elle trouve des substituts d'approvisionnement par rapport à la Russie. Et c'est vrai que ça a fait augmenter les prix d'approvisionnement, les coûts d'approvisionnement. Forcément, ça a eu un impact pour son industrie qui a dû se fournir à prix plus élevé. Et donc, c'est un choc négatif, disons, sur l'offre.
Oui, et à ce propos, Céline Antonin, on va écouter un chef d'entreprise allemand, Arndt Kirchhoff, dirigeant d'un constructeur automobile.
L'industrie est un central pfeiler.
L'industrie est indispensable à notre prospérité. Pendant des décennies, l'Allemagne s'est appuyée sur ses chaînes de valeur industrielles, un atout dans la compétition mondiale, mais qui risque de disparaître à jamais.
Stahl, chimie, cement, glas, aluminium, papier,
acier, produits chimiques, ciment, verre, aluminium, papier, métaux, électricité, toutes ces industries ont un besoin commun. L'énergie.
Sie sind energieintensiv.
Mais l'énergie n'est plus abordable pour les entreprises. Dans les prochains mois, nous verrons si ces industries, et donc des milliers d'emplois qualifiés et bien rémunérés, ont un avenir ou non en Allemagne.
Voilà donc pour ce cri d'inquiétude de ce chef d'entreprise allemand. On revient vers vous, Céline Antonin, économiste à l'OFCE. L'industrie allemande, ce sont de grandes firmes motrices. On a BASF, Bayer, Volkswagen, l'automobile donc, qui sont en difficulté. On voit déjà pas mal de suppressions d'emplois. Est-ce qu'on va vers un chômage de masse ? Est-ce qu'on va vers une crise de l'emploi majeure en Allemagne ?
Alors, chômage de masse, je ne pense pas, parce qu'il faut quand même rappeler que l'Allemagne a des chiffres particulièrement bons en matière de chômage. On est à 3,5% du PIB hein, pour le chômage à peu près donc mi-2024. Donc, enfin, il faut quand même rappeler qu'on part d'un niveau bas en Allemagne en termes de chômage, au sens du BIT. Après, on a effectivement une restructuration dans certains secteurs. On a des secteurs, par exemple les secteurs qui sont fortement consommateurs d'énergie, comme la chimie, comme le papier, une partie de la métallurgie, donc qui, eux, ont été touchés par le choc, notamment énergétique, qu'on a connu, et donc qui, eux, effectivement, pourraient connaître des difficultés en matière d'emploi, des délocalisations aussi, c'est ce qu'on disait, par exemple des industries chimiques qui ont intérêt à se relocaliser aux États-Unis, parce que grâce à l'IRA, les entreprises bénéficient effectivement d'un certain nombre de facilités par rapport à l'Allemagne. Donc, on peut avoir un effet sur l'emploi. Après, on n'aura pas forcément un effet très massif, au sens où ça touche quelques industries et que malgré tout, le tissu économique allemand reste relativement solide. Il faut quand même le souligner. Bon, même s'il y a un choc, effectivement, on n'est pas non plus dans une... c'est pas non plus une crise, j'allais dire vraiment énorme, qui va toucher toute l'industrie, tous les pans de l'industrie. Ce qu'il y a par contre, ce qui sans doute pose question, c'est effectivement la montée en puissance de la concurrence chinoise. Ça, c'est une vraie question. Le fait que les États-Unis, de leur côté aussi, se sont dotés de l'IRA, donc qui leur permet aussi d'attirer des entreprises, et que l'Europe, en fait, quelque part, est un peu l'angle mort, et on est un peu le continent qui ne fait pas grand-chose, on va dire, de son côté, pour essayer d'attirer des investisseurs. Donc ça, c'est un point important. Et il y a un autre point qui est vrai pour l'Allemagne et qui est vrai aussi pour la France, c'est le fait qu'on a eu une baisse importante de la productivité, donc en France comme en Allemagne, c'est-à-dire qu'on a eu vraiment beaucoup d'emplois qui a été maintenu au moment de la crise, notamment de la Covid, et qu'en fait, cet enrichissement de la croissance en emploi, en fait, on n'est pas du tout revenu au niveau pré-Covid, et on a ce différentiel de cette baisse de productivité importante qui, à un moment donné, va être sans doute récupérée, on va retrouver de la productivité, mais donc ça va impliquer là aussi des pertes d'emplois, et c'est sans doute ce qu'on est aussi en train de vivre aujourd'hui.
Vous parliez il y a quelques instants des États-Unis. Je voudrais que l'on écoute quelques secondes à présent l'une de nos correspondantes en Allemagne, Nathalie Versieux, qui analyse la réaction des milieux économiques allemands face à l'élection de Donald Trump et son retour à la Maison-Blanche.
Le second mandat Trump fait l'effet d'une douche froide à la majorité des Allemands, sonnée par un certain nombre d'études à ce sujet, comme celle qui prévoit 300 000 suppressions d'emplois dans le pays dans le sillage de l'augmentation probable des droits de douane, ou celle qui estime à 180 milliards d'euros sur 4 ans les dommages que la nouvelle administration feront peser sur l'économie allemande. Sans parler de la nouvelle exigence de Trump de faire porter à 5% du PIB les dépenses militaires des membres de l'OTAN, l'Allemagne venait péniblement d'atteindre la barre des 2%.
Céline Antonin, les milieux économiques allemands inquiets du retour de Donald Trump. On parle là d'études, des chiffres qui demandent encore à être vérifiés. On a quand même Olaf Scholz, le chancelier, qui s'inquiète de ces menaces douanières américaines et qui, lui, appelle à défendre le libre-échange.
Oui, alors l'Allemagne, elle repose vraiment sur une industrie puissante et exportatrice. Donc, elle a vraiment un modèle qui repose en fait moins sur la demande intérieure que vraiment sur sa capacité à exporter, en particulier vers des pays émergents à forte croissance, donc notamment la Chine, mais également vers toutes les autres zones du monde. Et donc, si... on fragmente le commerce international via des droits de douane, par exemple, effectivement, c'est préjudiciable pour l'économie allemande, puisqu'il y a une partie non négligeable des emplois allemands qui sont très liés à cette industrie exportatrice. Donc, on comprend que l'Allemagne promeuvent largement le libre-échange, effectivement, et que le fait d'avoir un monde cloisonné avec des droits de douane ne l'arrange pas du tout. Et c'est moins vrai dans des économies qui sont, disons, beaucoup plus tournées vers leur marché intérieur. La France, en fait, est plus dans ce cas, effectivement, où la consommation intérieure pèse un poids plus important dans sa croissance.
Et à propos de ce rééquilibrage commercial mondial, de cette situation qui évolue avec le retour de Donald Trump, on voit que, par exemple, la Fédération des constructeurs automobiles allemands souhaite que les investisseurs chinois soient les bienvenus en Allemagne. Ils appellent à une arrivée de ces investisseurs chinois. On a donc une volonté de changer de partenaire.
Oui, alors c'est vrai que c'est un peu ironique parce que jusque-là, c'était quand même plutôt l'inverse. Hein, c'était plutôt les Allemands qui allaient investir en Chine. Alors c'est vrai que du coup, les constructeurs automobiles sont favorables à une implantation des investissements directs étrangers. Il faut dire qu'en plus, notamment en matière de construction automobile, il y a tout le développement de l'électrique dans lequel l'Allemagne se débrouille en fait assez bien puisque l'Allemagne a assez bien pris ce tournant de l'électrique. Mais en fait, elle reste très loin justement de ses concurrents. Donc c'est vrai qu'elle est aujourd'hui en pleine mutation, et sans doute qu'elle se dit que grâce à des investissements directs, ça peut aussi accélérer ce changement de modèle.
Et on parle de cette économie allemande alors que des élections auront lieu le 23 février. L'économie est au cœur du débat politique et peut-être plus encore qu'ailleurs, il n'y a aucun consensus pour relancer l'économie. Un débat très très vif avec des projets très différents entre les différents partis. Céline Antonin.
Oui, alors il y a des projets très différents et notamment d'un côté il y a un projet de la CDU, donc qui est la droite conservatrice allemande, qui a déjà exposé dans un document de 30 pages ses principaux points, on va dire, et qui sont en fait vraiment une forte baisse de la fiscalité, à la fois sur les entreprises et sur les ménages, et en particulier les ménages plutôt aisés, en fait. Donc il y a vraiment l'idée d'un grand choc fiscal hein, qui a été chiffré autour de 90 milliards d'euros, en fait, annuel, donc ce qui est quand même vraiment enfin un choc très important budgétaire, avec l'idée que ça va induire de la relance, alors une baisse de l'impôt sur les sociétés, une baisse de l'impôt sur le revenu. Donc d'un côté, on a ce choc fiscal du côté de la CDU, et de l'autre, on a plutôt le SPD ou les Verts qui, eux, sont sur des mesures davantage de... Alors, à la limite, d'augmenter un peu la fiscalité sur certaines entreprises, avec l'idée aussi que, comment dire, l'effort doit être partagé et que on n'a pas du tout cette baisse de fiscalité. Bon, ce qu'il y a, c'est qu'il faut voir comment tout ça peut être financé, parce qu'effectivement, l'Allemagne est en même temps très attachée, malgré tout, à l'équilibre budgétaire. Donc, c'est vrai que, bon, malgré ces propositions, il faut voir ce qui pourra devenir concrètement.
Oui, et d'ailleurs, l'Allemagne est un pays vieillissant avec un poids très important pour le financement des retraites. Ça, c'est un problème.
Tout à fait, tout à fait. Et on a effectivement cette question, la question de la démographie, qui est là aussi une spécificité allemande. Alors, même si d'autres pays, comme l'Italie, ont aussi la question démographique, mais c'est vrai que c'est un point qui handicape la croissance future de l'Allemagne. C'est pareil. Alors, par exemple, la CDU a l'idée de favoriser effectivement une immigration qualifiée, mais en revanche, d'être beaucoup plus dur sur l'immigration non qualifiée. Mais il est vrai qu'il y a vraiment une ligne de fracture entre d'un côté la gauche et la droite sur les moyens, on va dire, de retrouver des marges de manœuvre en matière de croissance, sachant que de toute façon, le juge de paix aussi est cette règle d'or inscrite dans la Constitution avec le fait que l'Allemagne ne peut pas non plus trop dépenser puisqu'il faut effectivement qu'elle tienne l'équilibre budgétaire. Et j'allais dire que là, les Allemands sont beaucoup plus vertueux que les Français. Donc c'est vrai qu'à ce niveau-là, ils sont attachés à leur règle d'or.
Céline Antonin, vous parlez de la CDU avec un programme libéral, des sociaux-démocrates, le SPD, les Verts. Et puis on a l'extrême droite dont la CDU aura peut-être besoin pour constituer des alliances et qui, elle, place l'immigration au cœur des débats.
Oui, alors c'est vrai qu'il y a l'AFD qui sera peut-être un grand gagnant aussi de cette élection. Alors après, je ne suis pas sûre que la CDU fasse une alliance avec l'AFD. En tout cas, effectivement, ils pourront avoir un point important et ils ont placé cette question migratoire en tête de leurs priorités quant à eux. Mais je pense que ce qui va aussi beaucoup compter, c'est vraiment si ce programme de la CDU, qui vraiment fait un énorme choc fiscal, est mis en place, ça peut effectivement avoir un effet de relance, en tout cas sur la consommation et l'investissement. Mais alors, est-ce que ça se fera au détriment des finances publiques, auquel cas l'Allemagne gagnerait de la croissance, mais serait moins vertueuse en matière de finances publiques? J'avoue que ça, c'est aussi une inconnue. Mais quand vous mettez 90 milliards d'euros sur la table, ça peut faire une différence à la fin en termes de croissance.
Céline Céline Antonin, ces difficultés économiques de l'Allemagne, est-ce qu'elles vont handicaper la zone euro dans son ensemble ? À commencer par les pays voisins, les pays d'Europe de l'Est qui, on le sait, sont assez dépendants de l'économie allemande.
Alors en fait, vous avez deux effets quand vous avez un ralentissement allemand. Vous avez d'une part des pays qui peuvent se dire « je vais profiter entre guillemets de la faiblesse du voisin allemand pour moi augmenter mes parts de marché et gagner des parts de marché sur l'Allemagne ». Donc il y a un côté concurrence entre les pays européens qui peut avoir cours. Et c'est le cas de pays comme le Royaume-Uni par exemple, alors même si c'est pas un pays européen au sens strict du terme, mais voilà, par exemple. Et vous avez des pays qui, à contrario, sont tellement liés au commerce allemand, dont les exports et les imports sont tellement imbriqués avec le commerce allemand et dont l'emploi aussi dépend en partie de l'Allemagne, que ces pays-là vont clairement souffrir de la faiblesse de l'Allemagne.
Oui, on pense à la Pologne et la République tchèque.
Tout à fait. Alors, les pays d'Europe centrale et orientale sont vraiment dans ce cas de figure, donc très imbriqués avec l'Allemagne et une partie de l'emploi qui dépend effectivement de l'Allemagne, puisque l'Allemagne avait aussi beaucoup externalisé et délocalisé vers les pays de l'Est. Ça fait partie de son modèle. Donc, en fait, avec ces deux effets-là, je dirais que certains pays comme la France vont plutôt avoir un effet un peu négatif, mais en même temps, ils peuvent gagner un peu de part de marché. Donc, l'effet est négatif pour la France, mais pas très fort, en fait. Enfin, c'est un peu ce que montrent les études. En revanche, de manière plus symbolique et pour la zone euro et l'Union européenne, le fait d'avoir quand même un pays, le pays le plus gros de la zone euro, le pays locomotive, qui est affaibli ou qui connaît une croissance faible, voire nulle, c'est pas un très bon signe parce qu'effectivement, ça envoie quand même le signal d'un affaiblissement général économique de l'Union. Donc, globalement parlant, c'est vrai qu'en termes de signal envoyé, notamment aux grandes autres zones du monde, effectivement, ça donne l'impression que l'Europe est quand même un peu aujourd'hui dans la stagnation, d'autant que les pays qui sont autour ne connaissent pas une croissance fulgurante non plus, donc on a un peu l'impression que l'Europe est quand même un peu embourbée dans une croissance molle, voire nulle.
Céline Antonin, vous êtes une grande spécialiste de l'économie, de la zone euro, vous travaillez aussi beaucoup sur les questions de finances, d'épargne, d'innovation et de numérique, et vous venez de publier un ouvrage intitulé « Cryptoactifs, une menace pour l'ordre monétaire et financier », ouvrage coécrit avec Nadia Antonin aux éditions Economica. Pas facile d'expliquer ça en très peu de temps, mais pourquoi parlez-vous d'une menace ?
Alors, pourquoi une menace ? Parce que les cryptoactifs, et d'ailleurs que nous avons sciemment décidé d'appeler cryptoactifs et pas crypto-monnaie, parce que nous pensons que justement, ça ne doit pas être une monnaie, et que ça n'a pas vocation à être une monnaie. C'est-à-dire que ce sont des actifs numériques, donc on peut penser au Bitcoin, à l'Ethereum, enfin on a en tête un certain nombre de ces actifs qui sont très volatiles et qui en fait par un certain nombre de leurs caractéristiques sont des actifs spéculatifs, donc avec lesquels on peut spéculer en bourse, on peut gagner de l'argent, voire en perdre aussi, mais en revanche dans une fonction monétaire, donc là ça ne remplit pas les fonctions monétaires et notamment la fonction de réserve de valeur. Donc la fonction de réserve de valeur, c'est-à-dire que je peux transférer de la valeur pour le futur, eh bien en fait, on montre, et c'est ce qu'on démontre dans notre ouvrage, que ces cryptoactifs n'arrivent pas à garantir cette stabilité. Et par ailleurs, on a aussi besoin d'une incarnation pour nous de l'autorité monétaire qui s'incarne donc dans la banque centrale, qui n'est pas du tout assurée avec ces cryptoactifs parce que c'est un système qui est complètement décentralisé, qui repose sur la chaîne de blocs, mais surtout qui est décentralisé et en fait où personne n'est responsable in fine de ce qui se passe sur ces cryptos. Donc, même si c'est pas forcément l'objet du livre, mais il faut quand même aussi revenir à ce que c'est que la monnaie, au contrat social qu'il y a derrière, à l'idée démocratique qu'il y a derrière aussi. Et en fait, on revient vraiment sur les fondements de ce que c'est qu'une monnaie et pourquoi les cryptoactifs ne peuvent pas vraiment assurer cette fonction. Et on montre aussi quels sont les impacts en termes justement de stabilité financière. On parle de la finance décentralisée notamment, toute la finance qui est née autour de ces cryptos. Et on parle aussi d'un certain nombre d'initiatives qui ont été menées, par exemple dans les pays même en développement, et on montre que ça n'a pas forcément été des grandes réussites, justement, lorsqu'on a cherché à en faire des monnaies. Mais c'est vrai qu'on a vraiment essayé de faire acte de pédagogie, en tout cas, sur cette question, et surtout sur cette fonction monétaire et financière des cryptoactifs. L'idée n'est pas de dire les cryptoactifs doivent disparaître, mais c'est vraiment de dire leur rôle ne doit pas être celui d'incarner la monnaie future parce que, et aussi, on veut garantir la stabilité financière par ailleurs, on veut éviter qu'on puisse avoir des crises du type crise des subprimes à l'avenir et déstabiliser le système financier mondial. Donc voilà, c'est pour ça qu'on n'appelle pas de nos voeux que ces cryptos deviennent la monnaie de référence.
Merci à vous, Céline Antonin.
Merci.
Cet ouvrage dont je redonne le titre, Cryptoactif, une menace pour l'ordre monétaire et financier aux éditions Economica. On reparlera des crypto-monnaies lors de l'une de nos prochaines émissions. Dans Éco d'ici, Éco d'ailleurs. Bonne journée.
كي حصاني كري حسف كي تنام العباد والنور فسيح.
Dans quelques instants et comme promis, conversation avec Papa Amadou Sarr, ancien ministre sénégalais, premier africain à siéger au comité exécutif de l'Agence française de développement. Ce sera juste après le belgo-tunisien Djawar.
وزرع سواني حجرت فيه وخوض شوارع فلسطين فيه استاد الغريب كي تشوف سمات فوق سفر كل الأرض تصيح صفر كهدا وجراري وشاش حريق كيف يوم با يوم صفر كل قلبي يشيح صفر كيف باعوا بلادك بالحميد ديانك وبني ديار فيه وزرع سواني حجرت فيه وخوض شوارع فلسطين فيه استاد الغريب استاد الغريب
Les grèbes, c'était Djawar sur RFI. La Tunisie à l'honneur, la semaine prochaine, dans Éco d'ici, Éco d'ailleurs, nous recevrons Karim Beguir, fondateur et directeur général d'Instadip, une start-up tunisienne pionnière dans le domaine de l'intelligence artificielle. Ce sera à l'occasion du sommet pour l'action sur l'intelligence artificielle organisé à Paris, co-présidé par la France et par l'Inde. Nous serons en direct de la Bibliothèque nationale de France pour une journée spéciale sur RFI. Nous recevrons également Yaya Silla, directeur général de SA Analytics International. C'est l'un des leader ivoirien de l'intelligence artificielle et de la cybersécurité. Soyez donc à l'écoute samedi 8 février sur les antennes de RFI.
Éco d'ici, Éco d'ailleurs, Bruno Faure.
En attendant, place à une personnalité sénégalaise au cœur des questions de développement et pas que sur son continent. Papa Amadou Sarr, ancien ministre chargé de l'entrepreneuriat, aujourd'hui membre du comité exécutif de l'Agence française de développement, l'AFD, qui co-organise fin février au Cap, en Afrique du Sud, le 5e sommet Finances en commun. L'AFD, elle-même confrontée à de fortes contraintes budgétaires, c'est le premier sujet que nous avons abordé lors d'un entretien dans nos studios en compagnie de Julien Clémenceau, chef du service économie de RFI. En voici un large extrait.
Papa Amadou Sarr, les pays européens voient depuis quelques mois leur situation budgétaire se dégrader et ça a un impact sur l'aide publique au développement. Les ONG, elles s'inquiètent. Certains parlent même d'une déflagration. Quelles vont être les conséquences pour l'AFD, l'Agence française de développement ? Quelles lignes budgétaires vont être impactées ?
Aujourd'hui, effectivement, si cette coupe budgétaire est avérée, il y aura forcément des impacts sur nos activités, notamment dans le cadre du financement des organisations de la société civile. L'AFD gère un guichet qui tourne entre 100 et 140 millions d'euros par an au cours de ces dernières décennies grâce à Kouchner, qu'on appelle Initiative OSC, pour accompagner les organisations de la société civile à travers Coordination Sud. Ça peut être des OSC du Nord, comme Action contre la faim, ou des OSC du Sud, parce que depuis mon arrivée il y a 3 ans, nous avons imposé ou souhaité avoir environ 10 à 20% de ces ressources octroyées aux OSC du Sud.
Vous parlez de Coordination Sud, c'est justement eux qui ont organisé des rassemblements pour dénoncer ces coupes budgétaires. Donc ça veut dire que vous êtes... on va dire dans le même mouvement, en tout cas vous avez le même sentiment.
On travaille avec eux, nous sommes l'État, nous sommes un établissement public, nous ne pouvons pas contester ou faire des mouvements contre les coupes budgétaires car nous comprenons les difficultés financières après la crise de la Covid. La montée de l'inflation, les restrictions budgétaires. Aussi, on voit de plus en plus l'arrivée dans certains pays de régimes un peu, je dirais, anti-développement ou qui se recentrent sur eux-mêmes, sur l'Europe. Donc forcément, la remise en question de l'aide publique au développement est au cœur du sujet en 2025.
Mais vous comprenez donc ces coupes budgétaires. J'imagine aussi qu'il y a un travail de plaidoyer pour en limiter l'impact.
Absolument.
Est-ce que vous obtenez des petites victoires vis-à-vis du gouvernement ?
Absolument, parce qu'il y a eu des amendements qui ont été introduits au Sénat sur les transactions financières. On verra ce que cela donnera comme impact et quelques centaines de milliers d'euros que nous pourrons récupérer. Deux, ce qui est important là-dessus aujourd'hui, c'est que la voix de l'AFD, notre directeur général, qui a fait une tribune, qui est parti discuter avec le ministre de l'économie et des finances à Bercy, les Quai d'Orsay, le Premier ministre jusqu'au président de la République pour essayer de les conscientiser sur l'action de la France en matière d'aide publique au développement, en matière de financement du développement, en matière de solidarité internationale, ne doit pas être impactée de façon radicale parce que cela aura des conséquences. Ça veut dire un recul de la France sur la scène internationale, notamment en Afrique ou en Asie du Sud-Est, dans les pays où on intervient, où on est en compétition avec d'autres acteurs, que ce soit européens ou émergents, pour ne pas parler de la Chine, la Turquie et autres. Donc aujourd'hui, je pense qu'il est essentiel que nous continuions ces efforts de négociation pour avoir plus de ressources possibles dans le cadre du budget.
Parce que l'inquiétude, le Premier ministre a dit la France ne reviendra pas sous les 3% de déficit avant 2029.
Oui.
L'inquiétude, c'est que ces coupes budgétaires, elles se poursuivent dans les années à venir. Là, est-ce que tous les signaux ne sont pas au rouge ?
Alors, ce qui est important, ce qu'il faut savoir aussi depuis l'arrivée du président Macron au pouvoir en 2017, il y a eu quand même une hausse continue de l'aide publique au développement. Donc aujourd'hui, si on fait une pause d'une, deux ou trois ans, ça n'aura pas forcément, je dirais, d'impact significatif. On ne va pas retourner au niveau d'avant 2017. L'autre chose qui est importante au-delà de ces coupes budgétaires, c'est que l'Agence française de développement a mis en place des mécanismes pour mobiliser des ressources supplémentaires hors budget français.
Sur les marchés financiers,
des obligations.
Très, très récemment, d'ailleurs, au mois de janvier, là,
c'est ce que vous avez fait. Des obligations vertes aussi. Et l'Agence française de développement s'endette très bien pour pouvoir financer ces activités.
Il va y avoir plus de recours au marché, c'est ça ?
Il y aura plus de recours au marché. Il y aura aussi plus de cofinancement. Aujourd'hui, nous sommes l'un des premiers partenaires de la Banque mondiale en termes de cofinancement dans les pays en développement. Il y a aussi la Banque interaméricaine de développement, la Banque islamique de développement, plusieurs acteurs avec qui, là où nous faisions seuls 12 milliards d'euros, avec ces partenaires, nous pouvons faire 15, 18, 20 milliards. Et souvent avec de la délégation de tâches, c'est-à-dire ces partenaires nous délèguent ces ressources et nous rémunèrent pour ces activités.
Alors là, vous parlez d'institutions, mais ça concerne aussi des pays, c'est ça ? Vous allez aussi dans le Golfe.
Absolument.
Ça, c'est une nouveauté.
Absolument. Depuis 2 ans, j'ai travaillé avec mes équipes dans plusieurs pays, notamment le Qatar, les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite, où nous avons pu mobiliser pas moins de 50 millions d'euros en subventions pour cofinancer les projets avec les organisations de la société civile ou pour permettre de bonifier les prêts que nous faisons à des pays en Afrique subsaharienne ou même en Asie. Un exemple concret que nous avons aujourd'hui, grâce au financement que nous faisons avec le Qatar Fund for Development, on a pu travailler en Asie, au Moyen-Orient, dans les territoires palestiniens, au Liban, pour pouvoir accompagner des secteurs clés comme la santé, des secteurs clés comme le sport et la culture, avec aussi notre partenaire et notre filiale qui s'occupe de l'assistance technique qui s'appelle Expertise France.
Oui, puisque vous parlez des territoires palestiniens et de la bande de Gaza,
oui.
En plein dans l'actualité, le Liban oui. aussi, on est dans une période de grande difficulté. Est-ce qu'il y a des nouveaux programmes que l'on doit attendre là dans les prochains mois? Est-ce qu'il y a des programmes d'urgence qui sont lancés?
Je me réjouis d'ailleurs qu'il y ait une trêve cette semaine et que les humanitaires puissent rentrer dans la bande de Gaza. Et effectivement, l'Agence française de développement dans ces territoires, et notamment au Liban, travaille avec ses partenaires, que ce soit les partenaires dans la région, mais aussi d'autres pour pouvoir travailler dans le domaine de la santé. Des hôpitaux, dans l'exemple de l'hôpital Saint-Joseph que nous avons accompagné, et le domaine de l'addiction à l'eau potable, et plusieurs autres secteurs qui vont venir. On verra comment vont se dérouler les négociations, mais il va y avoir de la reconstruction, il va y avoir des écoles à construire, des hôpitaux, l'assainissement, et l'Agence française de développement répondra à présent.
Parce que la bande de Gaza, il y a sans doute beaucoup de choses à reconstruire très vite.
Absolument. Et je pense que, comme nous le faisons en Ukraine, l'Agence française de développement intervient dans le cadre de la reconstruction grâce à un prêt du Trésor. Donc, il est possible qu'on puisse en arriver là. On le fait aussi en Nouvelle-Calédonie et peut-être bientôt à Mayotte. Donc, alors, l'Agence française de développement intervient partout, pas qu'en Afrique.
L'aide au développement américaine
oui.
en Afrique,
oui.
à peu près 4 fois en volume celle de la France.
Absolument.
Elle pourrait diminuer avec le retour au pouvoir de Donald Trump. Est-ce que c'est quelque chose qui vous inquiète en tant que partenaire?
Non, pas forcément, parce que ça avait été aussi anticipé et ça avait été dit à l'époque quand Trump est venu au pouvoir, la première administration de Trump, que l'aide va baisser drastiquement. Ils ont essayé, mais on a regardé, ils sont environ à 3,7 milliards de différence. Mais si vous regardez ce que fait l'administration de Trump, quand Trump était là, il a créé, ils ont fusionné ce qu'on appelle plusieurs agences pour créer le DFC, qui s'occupe du financement du développement en soutien au secteur privé. L'administration Trump a accompagné plus d'entreprises américaines, secteur privé, à investir davantage sur le continent. Aujourd'hui, on voit qui est derrière Trump. L'investiture, il y a des entreprises comme Apple, Tim Cook, Tesla, X, pour ne pas le nommer, Elon Musk, et plusieurs autres acteurs, Satya Nadella, le patron de Microsoft, qui payent pour pouvoir assister à l'investiture, avoir 3-4 minutes avec le président, lui parler de Starlink, de projet de câble de Google, le cable landing qui est en train d'être fait de Cape Town au Sénégal, de Facebook qui est en train de faire la même chose. Ces géants du numérique, les autres entrepreneurs du secteur agroalimentaire, des infrastructures, sont en train de s'intéresser à l'Afrique. Et je pense qu'aujourd'hui, le président Trump, qui est aussi un entrepreneur, un magnat de l'immobilier, va accompagner les entrepreneurs à investir davantage.
À partir du moment où il y a un intérêt économique.
Absolument, donc, intérêt économique américain.
Il y a des engagements selon vous, Julien Clemenceau.
À mon avis.
Il y a un autre domaine qui pourrait profiter de l'arrivée de Trump, c'est le domaine extractif.
Oui.
Président de la Chambre africaine de l'énergie a fait des déclarations en ce sens. Drill, baby, drill in Africa.
Exactly.
Est-ce que vous pensez aussi que là, on va avoir peut-être plus d'investissements américains dans le secteur pétrolier, par exemple, gazier?
C'est Trump lui-même qui l'a dit dans sa campagne. Si vous l'avez suivi, il avait dit « We're going to drill again. We're going to frack again. » Et ce qui veut dire, malheureusement, pour nos
On
actions,
va forer davantage, on va faire du fracking de la...
Du gaz.
Du gaz.
Oui. Et ce qui veut dire certainement, peut-être qu'il va ressortir de l'accord de Paris, dont on célèbre les 10 ans cette année, ce qui est dommage pour la planète. Mais vous voyez, Trump, lui, il est dans une logique d'économie, de maîtrise de l'inflation, de création de l'emploi, de compétitivité de l'économie américaine. Que ce soit aux États-Unis ou dans les territoires où ils peuvent créer de la croissance externe, notamment.
Et l'Afrique va y gagner ?
L'Afrique pourrait y gagner, parce qu'aujourd'hui, si vous voyez des pays, que ce soit la Côte d'Ivoire, le Sénégal, l'Afrique australe, l'Afrique de l'Est, il y a des majors américaines qui sont en train de travailler, par exemple Cosmos au Sénégal, chez moi, ils sont aussi en Côte d'Ivoire, et en Angola et dans d'autres pays, pour pouvoir, ExxonMobil, pour pouvoir trouver de nouveaux puits, pour pouvoir investir, pour pouvoir augmenter leurs exportations.
Retrouvez-nous sur YouTube en tapant RFI Echo. RFI ECO.
Et l'attitude de Donald Trump et de la nouvelle administration américaine sera forcément au cœur aussi des discussions à la fin du mois de février au Cap, ouais, en Afrique du Sud, lors de la réunion des banques publiques, ouais, de développement, le sommet finance en commun. Ouais. Quel sera, Papa Madoussar, le message principal de cette réunion ? C'est la cinquième édition.
C'est la cinquième édition, effectivement, du mouvement Finance en commun, présidé par notre directeur général Rémi Rioux et mon collègue Adama Marico, qui s'occupe du secrétariat exécutif. Et je leur fais une petite pub, effectivement, fin février, aura lieu à Cape Town, cette cinquième rencontre des banques publiques. On a plus de 500 banques publiques au monde qui se regroupent, qui sont à des dizaines, de centaines de milliards de trillions, qui puissent permettre de financer l'économie, le développement. Et le thème cette année, c'est les infrastructures durables et résilientes. Notre objectif, c'est de voir comment on peut capitaliser les ressources de toutes ces différentes banques publiques de développement pour pouvoir financer les besoins de développement durable à travers les ODD. Et aussi, il n'y a pas que les banques publiques. Il y a aussi comment on peut faire intervenir le secteur privé, les banques privées, parce que les besoins sont estimés à 400 milliards de dollars par an pour le financement du développement, pour atteindre les objectifs de réduction de la pauvreté. Les banques publiques, le développement seul ne pourront pas suffire. Il faut amener le secteur privé, il faut amener les fondations.
Concrètement, comment ça va se dérouler et comment, par exemple, l'Afrique, oui, peut construire davantage d'infrastructures ? Actuellement, on estime que, pour donner un exemple, 600 millions d'Africains n'ont pas accès à, oui, à l'électricité. C'est même un chiffre qui est en augmentation ces dernières années. C'est tout de même assez ahurissant.
Absolument. Absolument, Julien. D'où le point qu'on faisait tout à l'heure. Aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on doit interconnecter l'Afrique, de l'Afrique du Sud à Dakar, et faire ces corridors d'interconnexion. On parle de Mombasa, Nairobi, en Éthiopie, aller à Djibouti, et descendre l'autoroute entre Abidjan, Lagos, éventuellement jusqu'à Dakar. Donc, c'est des ressources importantes. On parle de centaines de milliards de dollars par an pour pouvoir atteindre ces objectifs de financement de ces infrastructures. Aujourd'hui, l'accès à l'énergie.
Ce constat, on le fait depuis, oui, des dizaines d'années. L'Afrique reste la région du monde qui a peut-être le moins de kilomètres de route, le moins de kilomètres de lignes de transport électrique. Oui. Comment on change les choses concrètement ?
Les inégalités en Afrique sont les plus grandes partout ailleurs dans le monde. Aujourd'hui, il y a d'abord des efforts nationaux qui sont en train d'être faits avec les États qui sont en train d'augmenter le taux de pression fiscale pour collecter plus de recettes et aussi augmenter l'épargne, parce que sans cela, on ne pourra pas investir dans ces infrastructures. Deux, il y a les banques publiques de développement comme nous, ce qu'on appelle communément les DFI, les Development Finance Institutions, bilatérales et multilatérales, la Banque mondiale, la Banque africaine de développement et autres, qui eux aussi investissent des centaines de milliards de dollars par an pour résorber ces gaps en termes d'électricité, d'accès à l'eau, d'accès aux soins de santé et aussi de connectivité. Un travail qui, effectivement, est de longue haleine. La Banque mondiale voulait réduire la pauvreté à l'horizon 2030. Les objectifs de développement durable, je suis désolé de dire qu'on ne va pas atteindre ces objectifs à l'horizon 2030, ce qui veut dire qu'il faudrait multiplier par 4 ou 5 ces ressources qui sont mises sur la table par an pour pouvoir accompagner le développement du continent africain. C'est essentiel.
Mais ce que disent beaucoup les Africains et les interlocuteurs qui viennent ici dans nos studios, oui, c'est que à chaque sommet, quand on parle d'un nouveau pacte financier, quand on est dans les COP, il y a beaucoup d'argent qui est promis. Et puis quand on fait le bilan, 6 mois, 1 an plus tard, 2 ans plus tard, le bilan n'est pas aussi bon que ce qui était espéré.
Il y a les 100 milliards de Bakou qui viennent d'être annoncés en décembre dernier. Effectivement, je suis africain aussi. En tant qu'Africain, en tant qu'ancien décideur public sénégalais, c'est vrai que souvent, on reste sur notre faim à l'issue de ces sommets où souvent des annonces sont faites à travers des nuits de négociations. Mais ce qui est le plus difficile, c'est comment arriver au décaissement. C'est-à-dire, il y a des engagements financiers qui sont faits, ce qu'on appelle les pledges. Maintenant, il faut essayer de retrouver...
Mais qui ne fait pas son travail entre-temps ?
Alors, je pense que c'est à deux niveaux. Le premier niveau, c'est que souvent, les promesses qui sont faites par les pays développés ou les grands donateurs ne sont pas effectifs ou ils sont effectifs à 50, 40, 60%. Donc ça veut dire qu'il y a un manque à gagner qui s'accumule d'année en année et de COP en COP. Le prochain sera au Brésil, en Belém, où les pays.
Donc c'est
reviennent.
Qui c'est le dirigeant politique de ces pays qui ne met pas sa signature
Ils peuvent mettre la signature politique. Maintenant, après, on parle de coupes budgétaires en France ou dans d'autres pays. Si le président allemand ou français. Décide de dire « je vais mettre 1 milliard d'euros sur la table pour 2025 » et que ce même pays ait des difficultés budgétaires pour boucler son budget et qu'il coupe son budget de 30 ou 40%, qui va en ressentir c'est le pays africain ou d'Asie asiatique qui devait en bénéficier.
Quand j'achète une maison et que la banque me prête de l'argent, si je lui dis que je vais la rembourser, je la rembourse, je n'ai pas le choix.
Mais sauf que là, c'est des engagements que les États font et qui n'est pas suivi d'une obligation, c'est moral, je dirais, mais pas pénal. On ne va pas poursuivre tel pays ou autre s'il s'engage à donner 10 milliards et qu'il ne les respecte pas. Et l'essentiel, c'est que c'est pourquoi il y a ce plaidoyer de dialogue, d'organisations qui sont là, qui poussent comme One Campaign avec Bono et autres, on les connaît, qui poussent les pays du G7 et du G20 pour qu'ils puissent respecter leurs engagements en termes de financement de développement, en termes de financement du climat, etc., etc. Parce qu'effectivement, sans cela, les objectifs ne sont pas atteints. Et mais moi, je vais en rajouter une couche. Moi, je pense aujourd'hui aussi qu'il y a un effort à faire du côté des pays africains, des pays récipiendaires, qui puissent se dire aujourd'hui, moi j'ai fait 5 ans à l'OCDE, on parlait à l'époque toujours d'efficacité de l'aide, de financement de développement. À un moment donné, comme disait ma grand-mère, la main droite qui donne récupère par la main gauche. Il ne faut pas qu'on se voit la face. Les donateurs, ils le font parce qu'ils ont des intérêts économiques dans ces pays. Et si ces intérêts ne sont pas défendus, non seulement ils ne décaissent pas tout, ou bien ils donnent en partie, ou après ils investissent ailleurs. Donc c'est aux Africains et aux pays en développement de s'organiser, de collecter plus de recettes, d'augmenter le taux de pression fiscale, de collecter l'épargne et d'investir d'abord dans leur pays. Et ça, c'est excellemment, excellemment important, parce que ça permettra aussi aux donateurs, au secteur privé, de venir pour accompagner ces pays africains dans leur processus.
Il faut toujours écouter sa grand-mère, en effet. Merci beaucoup, Papa Amadou Sarr, pour cet entretien enregistré dans nos studios à Radio France Internationale.
Merci Bruno, merci Julien, et c'est toujours un plaisir de venir vous voir.
Écho d'ici, écho d'ailleurs,
sur RFI.
Papa Amadou Sarr, directeur exécutif chargé de la mobilisation des partenariats et de la communication à l'AFD, entretien à suivre en intégralité et en vidéo sur la chaîne YouTube de RFI, rubrique « Les invités de l'économie ». Nous y abordons bien d'autres sujets comme les relations entre les États du Sahel et la CEDEAO, mais aussi l'évolution économique de son pays, le Sénégal, son bilan à la tête de la délégation à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes, la DER, dont il a été limogé en 2022. Et comme il me reste encore quelques secondes, laissez-moi vous conseiller un podcast RFI, le succès des Répates. Il raconte le continent africain à travers le parcours de celles et ceux qui ont choisi de s'y réinstaller. Podcast réalisé par Charlie Dupiau. On vous met le lien sur la page d'Écho d'ici, Écho d'ailleurs sur RFI.fr. Voilà, c'est fini pour cette semaine. La suite au prochain numéro consacré donc à l'intelligence artificielle. Merci à Guillaume Meunier, notre réalisateur. Dès maintenant, les dernières nouvelles du monde sur RFI.
Cette émission vous a été proposée par la Banque Ouest-Africaine de Développement, BOAD, la banque de référence pour un impact durable sur l'intégration et la transformation de l'Afrique de l'Ouest.